Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Invité exceptionnel aujourd'hui, Delphine de Vigan pour son nouveau roman génial. On la retrouve tout de suite, mais d'abord, je vous annonce la suite. Le livre culte Misery de Stephen King. Je sais, je parle trop de Stephen King, mais aujourd'hui j'étais obligé, vous verrez. La bibliothèque de Patrick Cohen et ses vinyles. La librairie idéale, c'est son nom, avec Olivier Gallet. Et la chronique de Victor Dolland. La littérature jeunesse, bien entendu. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On doit à mon invité, notamment, Rien ne s'oppose à la nuit ou D'après une histoire vraie, dans Les enfants sont rois, son nouveau roman, nous sommes à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Kim Idior, 6 ans, joue à cache-cache avec les copains du quartier et son frère Samy. Samy, justement, qui vient de compter jusqu'à 300 et « Attention, j'arrive !» Il cherche et il trouve tout le monde assez vite. Mais pas de Kimi, c'est étrange parce qu'elle est vraiment nulle au cache-cache. Au bout d'un moment, panique, police, médias, Kimi a été enlevée. Or, Kimi, malgré son jeune âge, est une célébrité. Elle est la star de la chaîne YouTube Happy Récré. Elle et son frère ouvrent des cadeaux, testent des bonbons devant la caméra, c'est leur mère. Mélanie Clot, qui filme, ça rapporte beaucoup d'argent, 1 million d'euros par an tout de même. Et pour Mélanie, c'est assumé, chez elle, les enfants sont rois. Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour Nicolas Caro.
Les enfants sont rois, c'est donc le titre de votre nouveau roman chez Gallimard. Roman qui s'ouvre en fait 20 ans plus tôt, en 2001, lors de la diffusion de la finale de Lost Story. Vous décrivez à merveille la sortie des lofters. On avait assisté à ça en direct quand même, quand on s'en souvient, c'est fou. Vous avez été fasciné par cette émission. Je me suis dit que vous l'aviez regardée à l'époque en vous disant « Un jour, il faudra que j'écrive là-dessus quand même ».
Oui, tout à fait. Je l'ai regardé effectivement avec une fascination certaine et déjà avec une petite idée derrière la tête. Très vite, en découvrant les images du loft, était venue l'idée quand même d'écrire autour de ça. Et j'ai tourné d'ailleurs autour de ça pas mal parce que d'après une histoire vraie, la narratrice a un projet d'écriture autour de la télé-réalité. Et au fond, ce qui me fascinait déjà à l'époque, c'était cette notoriété très, très soudaine. Comment des anonymes comme ça pouvaient vivre et ensuite gérer une espèce de notoriété fabriquée de toutes pièces et dans un temps si court.
Et sans talent, sans génie particulier.
Sans être en tout cas des artistes, sans être chanteur, ni acteur, ni créateur.
Alors, c'est pas d'ailleurs un roman sur la télé-réalité, c'est le point de départ. Le personnage de la mère est fascinant, Mélanie. Elle a tenté justement la télé-réalité à l'ancienne. Ça n'a pas marché, elle voulait être célèbre, elle s'est mariée finalement, elle a eu 2 enfants, puis le temps est passé. Et écrivez-vous, Mélanie avait décidé de rester mère au foyer, une situation qu'elle appréciait pleinement dans l'attente d'un hypothétique destin. Avec cette idée très moderne, que le destin viendra vous chercher si vous êtes élu, puis sinon c'est que c'était pas le destin. Et on peut rester là, puis ça viendra tout seul.
Oui, puis malgré tout, elle a gardé en tête cette idée que un jour on peut devenir célèbre. Je crois qu'elle a regardé le loft avec ce désir là, et elle a eu effectivement, comme vous le disiez, cette expérience de télé-réalité un petit peu malheureuse. Elle a le sentiment d'être un peu passée à côté, mais au fond, elle n'a pas tout à fait renoncé à ce rêve.
L'expérience, c'est qu'elle a participé à un petit programme et puis elle s'est fait éliminer dès le premier épisode. Donc, elle n'a pas eu le temps d'être connue. Mais un jour d'ennui, elle décide de filmer ses enfants et de diffuser la vidéo. Ça cartonne et ils deviennent des stars de YouTube, un peu comme la famille Bratellet.
One, two, three, shout out.
Alors, eux, ce sont des Américains, les Bratellet. Il y a des Français aussi, mais j'ai pas voulu les afficher. Ce sont donc des gamins qui racontent leur vie de famille, avec ou pas leurs parents. 42 millions de vues, celle que je viens de diffuser là, la vidéo. Vous vous êtes renseigné là-dessus? Vous avez regardé beaucoup de familles vedettes comme ça?
Oui, je me suis renseigné, je me suis immergé dans cet univers des enfants influenceurs, dans cet univers de YouTube. Effectivement, à la fois avec des familles, des vidéos étrangères, américaines, anglaises, allemandes, italiennes, ça existe partout. Et ça, effectivement, il y a aussi des familles françaises. Voilà, j'ai découvert avec stupeur et stupéfaction cet univers. On entend très bien voilà, cette joie comme ça, affichée, contrefaite par les enfants. Ces vidéos d'unboxing, essentiellement, puisque c'est le cœur un peu de l'activité, c'est déballer des cadeaux, découvrir des jouets, des produits, des marques devant la caméra.
Déguster à l'aveugle, Nutella, voilà. Faux Nutella.
Toutes sortes de friandises.
Vous êtes un peu comme Clara, la policière qui est en charge du dossier de la disparition de Kimi, puisqu'elle ne connaissait pas du tout ces vidéos-là, et donc elle s'intéresse, mais pour le besoin de son enquête. Et puis finalement, elle est complètement happée par ce truc-là. Elle est fascinée, en fait. Elle garde son recul, bien sûr. Mais à quel point il y a un monde qui existe vraiment, hein, c'est des millions de vues, mais qui est complètement inconnu à beaucoup de gens.
Oui, c'est là tout le paradoxe au fond de ces vidéos et de cette activité. C'est qu'à la fois, elle génère des millions de vues et des millions d'euros. Et en même temps, la plupart des gens à qui vous en parlez ignorent l'existence de ces vidéos. C'est ce qui m'a frappé assez vite quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Et le regard de Clara, ce personnage donc de femme effectivement qui enquête sur la disparition de Kimi, il était un peu comme un double de moi-même, c'est-à-dire un personnage assez candide au départ qui découvre cet univers. Et c'est à travers son regard que j'ai pu à la fois d'écrire et inventer cette histoire.
Mais est-ce que vous avez passé vous aussi des nuits?
Ah oui, j'ai passé du temps, bien sûr.
En regardant votre montre, en vous disant, ah ben, déjà...
J'ai passé du temps entre fascination et répulsion, parce que il y a quelque chose d'assez fascinant dans la répétition de ces contenus. Ils se ressemblent tous, les phrases, les gimmicks sont les mêmes, les mimiques sont les mêmes. D'ailleurs, à travers les pays, au fond, c'est la même chose qui est mise en scène. De fait, ces chaînes se copient beaucoup les unes les autres. Donc il y a beaucoup de contenus communs. Et donc, on peut éprouver une forme de fascination, mais de fascination un petit peu terrifiée, si vous voulez. En découvrant ces enfants parfois extrêmement jeunes qui sont mis ainsi en scène par leurs parents.
Et dans le livre, en lisant votre roman, on a une fascination aussi pour cette mère, Mélanie, qui est complètement accro en fait, complètement addict au like quand sa fille disparaît. Quand même complètement l'angoisse, quoi. On ne sait vraiment pas où elle est. Elle se console avec les cœurs et les commentaires de soutien et je lis. Elle ajouta une dizaine d'émoticônes prières, deux mains jointes vers le ciel et une émoticône étoile dans les yeux. Quelques secondes plus tard, les premiers cœurs et les premières émoticônes bisous apparurent. En quelques minutes, elle avait déjà obtenu 718 mentions j'aime. Elle sourit. Comme si ça valait le coup finalement presque.
Bah oui, je sais pas si je crois pas qu'elle soit aussi cynique que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle mélange un petit peu tout, elle confond tout. C'est-à-dire que ce besoin d'amour, de reconnaissance, de regard qui est le sien et qui l'a conduite d'ailleurs à mettre en scène ses enfants, à se mettre en scène elle-même, à raconter elle-même sa vie sur Instagram, sur YouTube, à se mettre en scène aussi comme mère. Ce même besoin de reconnaissance et de réconfort et de consolation, j'ai envie de vous dire, est à l'œuvre au moment où sa fille disparaît, comme si elle allait trouver auprès de ce qu'elle croit être sa communauté. Le réconfort dont une mère est morte d'inquiétude a besoin. Elle a perdu un peu les pédales, elle mélange tout.
C'est une revanche pour elle, d'une certaine manière. Pour elle, si on n'existe pas médiatiquement, on n'existe pas du tout.
Oui, en tout cas, c'est l'illusion dans laquelle probablement elle a grandi. Maintenant, il y a aussi probablement des failles dans son histoire personnelle, familiale, qui peuvent un peu expliquer ce besoin, ce vide qu'elle cherche à combler, là aussi, par la notoriété, par la reconnaissance. Oui, elle est un petit peu au carrefour de tout ça, de cette illusion à la fois personnelle, intime, mais aussi qui est une illusion de l'époque, qu'il suffit d'être vu, d'être connu pour être heureux. Cette idée que n'importe quel anonyme peut accéder à la notoriété, à la célébrité.
De toute façon, il n'y a jamais de jugement de vos personnages. On se retrouve dans un instant. Delphine de Vigan va parler aussi de Clara, autre personnage très important du livre. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Delphine de Vigan pour son nouveau roman « Les enfants sont rois » chez Gallimard, la disparition de Kimi, une petite fille de 6 ans qui est très célèbre parce qu'elle fait des vidéos sur YouTube avec sa maman, Mélanie, et son frère, Samy. Puis un jour, donc, elle est enlevée, on ne sait pas où elle est, on n'a pas de nouvelles. Clara est policière, elle enquête sur cette disparition, puis d'une certaine manière, elle enquête aussi sur cette mode des familles qui font des films sur YouTube. Ça la dépasse un petit peu. Clara, c'est un personnage très intéressant, c'est quelqu'un de très fort, Delphine de Vigan. Et puis, elle est marquée par une idée et assez fascinée. Et je me demande si vous aussi, par cette idée que parfois, on se lève le matin, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais la vie peut basculer.
Oui, elle est marquée, j'ai envie de vous dire, dans sa chair, par là où ce qu'on sait actuellement, enfin ce qu'on sait évidemment intellectuellement, que les choses peuvent basculer du jour au lendemain, qu'on peut avoir un accident, qu'on peut perdre un être cher, etc. Elle l'a éprouvé dans sa chair. Je ne veux pas en dire trop pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur, si je puis dire. Mais voilà, oui, c'est quelque chose qu'elle sait, qu'elle a parfaitement intégré. Et donc, elle est procédurière, elle travaille à la brigade criminelle. Et d'une certaine manière, cette idée que la vie bascule, elle en a fait son métier. Elle y a été confrontée personnellement et elle y est confrontée en permanence dans son travail. Elle a en permanence affaire à des gens dont la vie a basculé parce qu'il y a eu un drame. Et là, évidemment, ce qui se joue, ce qui se cristallise autour de l'enlèvement d'un enfant, avec un enjeu très fort de vie ou de mort, on le sait bien, voilà, c'est évidemment pour les enquêteurs et pour la police judiciaire en général, un enjeu particulièrement fort.
C'est d'ailleurs un personnage parfait de polar, Clara. Elle est au Bastion, qui est nouveau 36, qui est des Orfèvres. Le roman est construit aussi avec une intensité, un suspense, des fausses pistes, vraiment très 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 bien construit. Mais en même temps, alors je dévoile rien, au bout d'un moment dans la lecture, on se dit que finalement, c'est pas le polar qui est au cœur du roman. Vous refusez d'aller complètement dans le genre, parce qu'on sent aussi que vous vous amusez avec ça.
Oui, je me suis amusée, tout à fait, vous avez raison, je me suis amusée à la fois à adopter ces codes du polar et j'espère les faire vivre de manière suffisamment forte pour qu'il y ait une tension dramatique, pour qu'il y ait une forme de suspense, et en même temps à les déjouer. Et au fond, d'ailleurs, tout ça s'incarne parfaitement complètement dans le personnage de Clara, qui est une femme flic à part entière, mais qui très vite a l'intuition qu'en fait, ce qui se joue, c'est dans les vidéos elles-mêmes, d'une certaine manière, qu'elle va trouver la réponse. Et que là où ses collègues sont occupés, évidemment, à relever les indices, les traces, à chercher s'il y avait des pédocriminels à proximité, etc., toutes sortes d'étapes incontournables de l'enquête policière, elle, qui est procédurière, donc c'est un métier qui est un petit peu à contre-temps dans l'enquête.
Elle est chargée de coordonner tout, en fait, de récupérer les indices, s'assurer que le dossier est bien rédigé.
Tout à fait. C'est un métier clé et qui existe en tant que tel.
Procédurier.
À la brigade criminelle, mais ça lui donne un petit temps de décalage par rapport au flux de l'enquête et de l'urgence. Et elle occupe ce temps finalement à regarder ses vidéos, à comprendre ce qui se joue dans ses contenus, avec l'intuition que c'est là qu'elle va trouver la réponse.
Mais est-ce que, pour en revenir à ma question, est-ce que vous vous êtes dit « Oh, je ferais bien quand même juste un polar ». Ou alors vous avez dit « Non, je peux pas, il faut quand même que je mette ça et ça et ces enjeux sociaux aussi, etc.
Bah, » Pour moi, c'est avant tout un livre sur l'époque, je crois. Enfin, telle était mon intention de départ, à la fois sur l'époque, à la fois sur ce qui se joue parfois à l'intérieur des familles, qui est invisible à l'œil nu. Mais en même temps, j'aime bien cette idée de flirter avec le genre. Je l'ai fait déjà par le passé avec le thriller psychologique, dans « D'après une histoire vraie », je l'ai fait avec le théâtre, dans « Les gratitudes ». Et là, oui, ça m'amusait de flirter un peu avec le polar, de jouer le jeu, d'en adopter les codes. Mais après, à un moment donné, de les désamorcer. Peut-être parce qu'au fond, je me dis, mais non, je ne suis pas capable d'écrire un vrai polar. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à m'immerger un peu dans ces codes et dans cette littérature pour tendre dramatiquement le roman.
Je ne peux pas dire plus sur l'intrigue, ce serait vraiment trop dommage. Mais enfin, on peut quand même dire qu'à un moment, la police s'intéresse à des gens, des chevaliers blancs du web, si on veut, qui critiquent sur le web et ces familles, justement, qui mettent leurs enfants en scène. Vous êtes intéressé à eux aussi ?
Oui, ils existent. Je pense en particulier d'ailleurs à un jeune youtubeur qui s'appelle Le Roi des Rats, qui a inspiré en partie ce personnage de chevalier blanc du net, qui a été probablement d'ailleurs un des tout premiers lanceurs d'alerte, je pense, sur ces chaînes familiales. Et au fond, ce qui m'intéressait, ce que j'avais aussi envie de raconter, c'est que sur YouTube, on trouve bien sûr aussi un contenu critique et que c'est pas seulement une histoire de génération, que des jeunes gens peuvent être eux-mêmes un peu heurtés, voire choqués par ces images. C'est pas, il s'agit pas de dire YouTube c'est mal ou les réseaux sociaux c'est mal ou c'est bien. D'ailleurs, c'est d'abord ça dépend évidemment de l'usage qu'on en fait. Et moi, j'avais surtout envie de raconter cet univers qui est presque un monde à part, ce monde de YouTube où il se joue des choses. C'est assez fascinant parce qu'il se joue des rivalités, des entre les chaînes, entre elles, des elles se copient parfois les unes les autres. Certains, encore une fois, certains YouTubeurs prennent position contre certains contenus. Enfin, c'est comme un univers comme ça, un peu parallèle pour ceux qui, comme moi, ne le pratiquent pas forcément au quotidien. C'est comme un univers parallèle assez, assez passionnant parce qu'il se joue des choses finalement très diverses.
Vous flirtez avec le polar, même. C'est carrément une histoire d'amour avec le polar pour ce roman, mais vous flirtez, c'est vrai aussi, avec le roman d'anticipation dans la toute dernière partie. On fait un bond dans le futur. C'était, alors, j'imagine, pour suivre certains personnages et voir ce que ça va donner, mais comme si vous vouliez aussi tirer la ligne pour voir jusqu'où va nous emmener ce système-là. Et peut-être, au passage, vous amuser un peu avec les gadgets qui pourraient arriver d'ici une vingtaine, trentaine d'années.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est vraiment cette partie d'anticipation qui, au fond, se situe en 2031, donc ça n'est pas si loin. C'était une manière de tirer, en effet, les fils qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Au fond, le monde que je décris dans cette partie-là, il est très proche du monde dans lequel on vit. Et un certain nombre de choses sont déjà là, sont déjà plus que en germe dans notre époque. Alors ça m'amusait là aussi bien sûr de flirter un peu avec ce genre, mais sans prétendre du tout être dans un roman d'anticipation, parce que d'autres font ça beaucoup mieux que moi. Mais l'idée, oui, c'était d'essayer d'imaginer ce qui pouvait se jouer pour ces enfants lorsqu'ils deviendront adultes.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous, ou sur YouTube ?
Non. Non, c'est vrai que j'ai un peu raté ce train à plusieurs reprises, volontairement, bien sûr, mais j'ai raté le train de Facebook, alors qu'on me disait « oui, il faut être sur Facebook », ensuite j'ai raté le train d'Instagram, « non, il est important, les écrivains, il faut être sur Instagram ». Enfin, j'ai un peu raté tous ces trains, essentiellement, à vrai dire, avec le sentiment que c'est tellement chronophage, en fait, et peut-être un peu par peur de m'y perdre.
On va se perdre, si vous voulez bien, dans un instant, chez Stephen King, Delphine de Vigo.
Bien volontiers.
J'ai choisi au hasard ce livre culte. A tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
La Voix est livre, deuxième chapitre, le livre culte. Et alors donc, Stephen King, Misery, sans doute le plus grand livre de Stephen King, paru en 1987, l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain à succès. Il a notamment publié une série de romans à l'eau de rose dont l'héroïne s'appelle Misery Chastain. Au début du livre, Paul Sheldon est victime d'un accident de voiture assez grave, il perd connaissance et quand il se réveille, il ressent une intense douleur aux jambes, elles sont broyées, il est incapable de les bouger, ne serait-ce que d'un centimètre. Il est chez Annie Wilkes. Elle est passée devant la voiture de Paul et elle l'a ramené chez elle pour le soigner. Elle sait parfaitement qui il est. Elle l'a tout de suite reconnu et pour cause. C'est une fan, une fanatique même des histoires de Misery écrites par Paul Sheldon. Le problème, c'est qu'Annie, c'est aussi une terrible psychopathe. Et quand elle découvre que l'écrivain a osé tuer Misery dans le dernier volume de la série, elle devient folle furieuse. On écoute la première page lue par Philippe Dussault.
Mais parfois les sons, comme la douleur, s'estompaient et il n'y avait plus que le brouillard. Il se souvenait des ténèbres. Ténèbres compactes qui avaient précédé la brume. Cela voulait-il dire qu'il faisait des progrès ? Que la lumière soit, même du genre brumeux, car la lumière était bonne et ainsi de suite. Ces sons avaient-ils existé dans les ténèbres ? Il ignorait la réponse à ces questions. Cela avait-il le moindre sens de les poser ? Même à cela, il ne pouvait pas répondre. La douleur rôdait quelque part, en dessous des sons. Elle gisait à l'est du soleil et au sud de ses oreilles. C'était là tout ce qu'il savait. Pendant une durée de temps qui lui parut très longue, et qui donc l'était, car n'existait rien d'autre que la souffrance et la tempête de brume, ces sons restèrent la seule réalité extérieure. Qui il était et où il se trouvait, il n'en avait aucune idée. Et d'ailleurs, il s'en moquait éperdument. Il aurait voulu être mort, mais dans le brouillard imbibé de douleur qui lui remplissait l'esprit comme une nuée d'orage d'été, il ignorait le désirer.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est livre. Nicolas Carreau.
C'était la première page de Misery de Stephen King, lue par Philippe Dussault. Je vous le dis, chers auditeurs, je vous promets qu'on ne parle pas de Stephen King pendant au moins 3 ou 4 semaines dorénavant. Je vous en parle un peu trop, c'est vrai, je m'en rends compte, mais parce que je l'adore, c'est tout. Comme Delphine de Vigo,
oui,
qui est toujours là.
Oui, je sais que c'est une passion que nous partageons.
Alors, Stephen King, Misery, c'est un livre qui a compté pour vous.
Oui, ça fait vraiment partie de mes préférés de Stephen King. C'est pas le seul, bien sûr, mais j'aime beaucoup ce livre qui met en scène un écrivain qui est à la fois un suspense implacable, un roman vraiment très, très tendu, très terrifiant, avec un personnage comme ça au bord de la folie, ce personnage d'infirmière qui kidnappe ce pauvre homme. Et en même temps, comme souvent chez Stephen King, il y a tout un arrière-plan, et là en l'occurrence c'est un formidable livre sur la fiction, sur le pouvoir de la fiction, sur le pouvoir de la littérature, parce qu'au fond cette femme elle est désespérée parce que il a fait mourir son personnage, et donc cette
sur l'addiction à la drogue aussi,
oui,
parce qu'elle lui donne des calmants,
il y a des descriptions absolument incroyables de la douleur physique et du manque et de la dépendance. Pour moi c'est vraiment, si besoin en était, un des livres qui montrent à quel point Stephen King est un immense écrivain, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, un écrivain du suspense, on l'a dit, de l'horreur, mais aussi un très fin analyste du monde de l'époque, un très fin, il a une analyse psychologique qui, de mon point de vue, a peu d'équivalent.
Et d'après une histoire vraie, l'un de vos romans était une sorte de variation autour de Misery, d'une certaine manière.
Oui, on peut le dire comme ça, voilà, sans prétention. En tout cas, j'avais mis plusieurs extraits de Misery en exergue, avec cette idée de prise de pouvoir comme ça de lecteur ou de lectrice qui perd un peu les pédales et qui, à un moment donné, peut s'avérer dangereuse pour l'auteur. Alors là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un kidnapping comme dans Misery, mais peut-être plutôt d'un kidnapping moral, mental, d'une emprise mentale.
Et il est en exergue d'ailleurs de ce nouveau roman aussi.
Tout à fait, oui. Ouais.
Vous l'avez déjà rencontré quand il est venu en 2013 en France, une des seules fois où il est venu ?
Non, j'avais hésité parce que j'aurais pu, il avait à l'époque participé à 2 événements parisiens et voilà, j'aurais pu essayer de me rapprocher, mais j'avais peur en même temps de ce temps très court qu'aurait pu être cet échange et forcément un peu frustrant, ouais. Je ne parle pas suffisamment bien l'anglais.
Bravo,
voilà, je vous adore, okay. J'adore ce que vous faites. Non, je me suis contentée de le regarder, d'écouter les interviews qu'il a données à ce moment-là et qui étaient tout à fait passionnantes d'ailleurs.
Et bien, dans un instant, justement, nous partons chez quelqu'un qui a rencontré pendant une heure Stephen King en 2013, un des seuls, Patrick Cohen. On va visiter sa bibliothèque tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre du journaliste, du grand journaliste de radio, Patrick Cohen. Bonjour Patrick Cohen.
Bonjour. Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous, dans votre bibliothèque. Ça fait longtemps que j'avais envie de la visiter. Je vous croisais dans les couloirs, je vous demandais quand est-ce qu'on pourrait venir. Mais vous avez un emploi du temps quand même assez chargé, il faut bien le dire.
Un petit peu.
On a trouvé un créneau quand même. Donc merci, on a beaucoup de travail. Parce que y a une bibliothèque. Là, on est dans le salon de votre appartement haussmannien, c'est ça. Ensuite, il faudra qu'on passe dans la pièce d'à côté où il y a encore une grande bibliothèque. Et puis dans votre bureau où il y a encore beaucoup de livres.
Oui.
Mais pas que des livres d'ailleurs, on va y revenir. Mais je voulais commencer par là, par votre salon, parce qu'en entrant, on voit une collection impressionnante de l'illustration en grand format et d'époque. Vous nous expliquez ce que c'est que l'illustration ?
L'illustration, c'était le Paris Match, le grand magazine illustré des années... alors, ça a démarré en 1850-1860. Ça a pris son essor ensuite avec la photographie au début du siècle, du 20e siècle. Et puis, ça s'est prolongé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les gérants de l'illustration ont eu la mauvaise idée de collaborer. Donc, l'illustration s'est achevée de façon pétainiste avec les portraits en couleur du maréchal Pétain reproduits. D'ailleurs, on est à deux pas du siège de l'illustration qui était rue Saint-Georges, ah, juste d'accord. au coin, et
dans
avec une façade restaurée qui a été, où on voit en lettres d'or l'illustration encore. Donc ces exemplaires-là, ils viennent à deux pas, mais ils ont fait un grand voyage, parce qu'ils sont passés par le Maroc. C'est mon père, mon grand-père qui a rassemblé cette collection.
Ah, j'allais vous demander si
collection.
Vous étiez collectionneur. Ça vient de votre grand-père, donc.
Exact, c'est lui. Qui a fait relier tous ces numéros, tous ces magazines de l'illustration. Et alors, il y a là-dedans des trésors que je n'ai explorés qu'en partie.
Oui,
parce
que... il y a une centaine de volumes grand format, hein, faut le dire.
Voilà,
c'est
ça. Et c'est un magazine qui était pionnier en matière de reproduction de photographie couleur et de reproduction d'œuvres d'art. Et donc, dans des numéros très anciens, des années 20 et 30, vous trouvez des reproductions en couleur de chefs-d'œuvre du Louvre, de peintures célèbres, de grandes toiles de maître qui sont absolument extraordinaires. C'était un magazine qui essayait de donner à voir ce qu'il y avait de plus beau au monde, avec des papiers d'actualité autour.
Alors juste à côté, c'est les livres de journalistes, en tout cas les essais. Mais il y a une belle collection aussi. Alors évidemment, les livres politiques.
Il y en a beaucoup.
Ça vous assomme pas, si ? Non ?
Alors,
j'aimais les lire, ceux-là aussi ?
J'aime,
vous en avez besoin.
J'aime pouvoir m'en servir. Vous voyez, regardez, il y a une vieillerie, par exemple, un truc, voilà, ça là. Jacques Thibault, qui est un ancien directeur de la télévision, une télévision pour tous les Français, il présente un projet complet. C'est une édition d'époque pour faire la télévision des années 70. Et il y a toute l'histoire de la télévision, et c'est absolument formidable, le nombre de postes de télévision en telle année, etc. Bon, et ben c'est un bouquin dont, bizarrement, je me sers assez souvent pour, vous voyez, pour Rembobinin, pour l'émission que je fais avec les archives de la télé. Donc il y a des choses qui me servent. Et puis il y a des choses qui ne me servent à rien, mais que je n'ai pas pris le temps de trier, mais que je pourrais... honnêtement, je pourrais m'en passer, quoi.
Juste en dessous, il y a le livre de Luc Bernard, oui. Europe 1, la grande histoire dans une grande radio.
Oui, c'est un classique dans la maison, là. Oui,
c'est un prétexte pour vous poser une question sur la radio, justement, parce que vous faites beaucoup de télé aujourd'hui, mais vous êtes quand même encore vu et associé aux médias radio.
C'est
important, ça, pour vous, encore, aujourd'hui ?
Ah oui. Alors ça, sur l'histoire de la radio, il y a plein de trucs. Hein. Vous avez France Inter, vous avez RTL, Radio Luxembourg, vous avez Europe 1, il y a plein de choses, il y a des albums, des trucs et des machins. Oui, c'est pas seulement le souvenir ou la nostalgie de la radio, hein, c'est la conviction que c'est le média le plus libre, le plus souple, le plus créatif, le plus... et qui a encore de l'avenir, je le crois, peut-être sous d'autres formes, moins en direct et plus en podcast qu'aujourd'hui, sans doute à l'avenir, mais la capacité de création, d'imagination, le pouvoir imaginatif de la voix et des reportages sonores en radio, oui, ça c'est absolument inégalé.
Hein. Il y a beaucoup de romans aussi ici, il y a beaucoup de polars, vous êtes fan de polars ?
Ouais, j'en ai lu énormément, fascinant.
Ah. Là, j'en vois un, il faut qu'on en parle absolument.
Parce que
c'est Stephen King, là, c'est Misery que j'ai dans les mains.
Mais c'est votre chouchou aussi, c'est pour ça.
Oui, mais vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé pendant une heure.
Et oui,
à moi.
Et
il ne vient jamais en France.
Et j'ai un peu honte, c'est que je l'ai rencontré avant d'être fan.
En 2013.
Voilà. C'est-à-dire
que. De sa dernière venue en France.
Cette rencontre m'a ouvert ma curiosité sur un auteur que je ne connaissais pas, ou très mal, en tout cas, je ne l'avais pas lu. Donc j'ai préparé cette interview du mieux que je pouvais, mais sans avoir lu les milliers de pages noircies par Stephen King. Et après cette interview, qui m'a beaucoup marqué, parce que, évidemment, je voyais bien l'ampleur de l'événement que représentait le fait qu'il vienne à Paris, qu'il réponde à des interviews, à une conférence de presse, à la radio où j'étais, c'était l'effervescence incroyable, etc. Je me suis mis à ouvrir des livres de Stephen King, et là j'ai compris. J'ai compris à quel point c'était un immense auteur, un immense bonhomme, à la fois dans le style, dans la créativité, dans l'imagination, dans la capacité de garder le lecteur jusqu'au bout, de l'émouvoir, etc. Enfin, c'est des choses qui sont...
Vous avez une radio à l'ancienne aussi, avec cassette.
Oui, parce que j'ai des cassettes.
Vous avez des cassettes encore ?
Oui, j'ai des vinyles et puis j'ai des cassettes. Regardez, un disque Europe 1.
Oh. Hein ? Un discorama ?
Non.
Michel Debré contre Guy Mollet. Débat du 26 octobre 1962. Et ouais, il y avait des vinyles de débat quand même.
Des vinyles de débat sur Europe 1, hein, voilà, arbitré par Jean Goréni.
Parce que passer le Michel Debré Guimollet.
Ah, si ça vous amuse, oui.
Je vais poser le truc.
Donc, on est dimanche soir. Patrick Cohen s'ennuie un petit peu. Il se sert un whisky et il se met sur sa platine le vinyle du débat Michel Debré Guimollet, voilà, sur Europe 1.
Exactement. On va l'écouter.
Ce débat, un des arguments de la controverse est celui-ci. Le général de Gaulle a annoncé son intention de se retirer en cas de non ou même de oui insuffisant. Il vient de le redire encore précisément dans cette dernière allocution que nous venons d'entendre. Pour l'opposition, cette attitude fausse le sens du référendum. Si vous êtes d'accord, M. Guimollet va d'abord exposer son point de vue sur cet aspect de la question, et puis ensuite, M. Debré lui répondra. Le président Guimollet.
Oui, cet argument nous est souvent opposé. Certains même vont jusqu'à dire...
Voilà, ce qui fait, ce qui fait de moi un homme moderne.
C'était plus calme. C'était plus calme. Patrick Cohen, merci beaucoup.
Merci Nicolas.
De nous avoir accueillis. À bientôt. Retour en studio et merci beaucoup à Patrick Cohen pour cette visite. Delphine de Vigan, chez vous, c'est comment la bibliothèque? Comment vous rangez vos livres?
Bon, j'ai vraiment d'abord une préoccupation permanente de ne pas trop me laisser envahir par les livres. Donc, ils passent par des étapes comme ça, de savoir est-ce qu'on va les garder ou pas. Et une fois qu'ils sont rangés, c'est que...
Il faut vraiment que ce soit un chef-d'œuvre maintenant pour le garder, quoi.
Oui, en tout cas, un chef-d'œuvre, je ne sais pas. Oui, certains, bien sûr, mais d'autres, un livre qui a vraiment compté. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai qu'on on peut être vite envahi. Et là, en l'occurrence, une fois qu'ils sont là, c'est qu'ils vraiment, ils ont une bonne raison d'y être. Et donc, pour ma part, j'ai deux bibliothèques, une bibliothèque étrangère et une bibliothèque consacrée plutôt au domaine français. Et dans les deux cas, les livres sont classés par ordre alphabétique, ce qui me permet de les retrouver aisément. Et étant dans un appartement parisien, ça oblige effectivement à une sélection qui parfois peut paraître assez drastique sur ce qu'on garde. Et parfois, ça m'amène d'ailleurs à offrir des livres que j'aime, enfin que j'ai vraiment aimés, mais dont je sais que je ne vais pas forcément les relire ou que je ne vais pas forcément y revenir, en fait. Et ceux qui sont là, c'est vraiment ceux que j'ai besoin d'avoir près de moi.
Et ceux que vous n'avez pas aimés, vous ne pouvez pas les offrir, donc vous en faites quoi?
Non, alors ça m'arrive, j'ai dans ma résidence, en fait, on a une petite bibliothèque, c'est une très bonne idée, qu'on peut mettre en circulation des livres, et donc, parce que ce n'est pas parce que je ne les ai pas aimés que d'autres ne les aimeront pas, donc voilà, moi je dépose assez régulièrement des livres dans la bibliothèque commune de ma résidence.
Est-ce que vous avez un petit carré d'étagère avec vos livres à vous?
Non, pas vraiment. Les traductions, j'en ai quelques-unes qui sont là en bas dans une étagère, mais je les mets chez mon compagnon qui a plus d'espace. Donc, j'emporte mes traductions chez lui parce que là, pour le coup, j'ai la chance d'être beaucoup traduite à l'étranger. C'est assez... j'aime beaucoup cette manière d'interpréter différemment les titres,
rigolo,
les couvertures, etc. Donc, je ne peux pas tout garder là non plus. J'essaye de donner, d'ailleurs, je donne des traductions dans les prisons aussi parce que de plus en plus, les prisons ont besoin de livres en langue étrangère. Donc, j'en donne une partie.
Mais vous n'avez pas vos livres en français chez vous?
Si, mais alors ils ne sont pas exposés. Sûr, j'essaye d'en garder quand même quelques exemplaires pour mes enfants si un jour ils ont envie de les avoir. Mais je les mets dans une caisse en bas d'un placard.
Ça vous arrive de relire un de vos livres?
Non, je vais vous dire, il y a tellement de choses à lire qui me paraissent prioritaires. Ça m'arrive de fait parce que j'ai par exemple fait une lecture musicale avec la grande Sophie. Pendant quelques temps, on a joué ensemble un spectacle qui était... basé sur ses chansons et sur des extraits de mes livres. Donc là, j'ai eu à me replonger dans mes romans pour trouver les extraits à mettre en écho avec ses chansons. Mais sinon, non, j'ai mieux à faire que ça.
Dans un instant, on part chez un spécialiste du rangement des livres. On part chez Olivier Gallet à la librairie Idéale.
La Voix et Livre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix et Livre. Il est l'heure de rendre visite à un libraire. Direction la librairie Idéal chez Olivier Gallet.
Bonjour Olivier Gallet.
Bonjour Nicolas.
On est à la librairie idéale, c'est la librairie de Tatiana de Ronet. C'est chic ça quand même.
Ouais, exactement, on est un peu ses chouchous, elle vient régulièrement et nous on l'adore aussi. C'est toujours un plaisir de la recevoir.
Et c'est une très belle librairie, rue Claire à Paris, c'est très 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 joli. Alors vous en plus vous mettez les livres sur le trottoir, vous avez confiance en la météo, comment ça se passe?
C'est vrai qu'on a 5 tables dehors, qui est un espèce d'appel pour les personnes. Et en fait, on met aussi beaucoup de coups de cœur dehors avec des bandeaux. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui prennent les livres. Et c'est vrai que c'est un atout majeur de la librairie.
Alors, justement, en parlant de coups de cœur, on en a 3. Enfin, plutôt, on en a 2. Mais vous allez nous parler d'un. Vous êtes en rupture de stock parce que vous faites partie de ces libraires passionnés qui proposent à leurs clients le livre qu'ils préfèrent. Résultat, vous n'en avez plus. Bon, on va commencer par celui-ci. Ouais.
C'est donc Le Mal épris de Bénédicte Saumier, édité chez Calman Levy. L'histoire d'un homme et d'une femme, une histoire amoureuse, et en fait qui va virer au drame. On va rentrer en fait dans une espèce de spirale infernale. Et en fait, Bénédicte Saumier va parler en fait des violences conjugales. Donc on va être dans la tête de Paul, le bourreau, et Bénédicte, la victime. Et donc, en fait, ce qui est très fort aussi dans ce roman, c'est avec sa plume incisive très précise, on est embarqué en fait comme dans un thriller et elle tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin.
Deuxième coup de cœur, je vous laisse choisir, il en reste deux là sur la table.
Bien sûr, on va parler de Valentin Spitz, Un fils sans mémoire aux éditions Stock. Alors là, en fait, ça va être un livre sur l'absence du père. Donc son père, lui, en fait, était le doc de Doc Edifool, l'émission de Fun Radio, que je pense beaucoup se souviennent.
Pile ma génération, émission culte.
Exactement. Et en fait, ce qui va être assez paradoxal, donc il va revenir sur son enfance et son adolescence. Et ce qui est paradoxal donc, avec ce père qui répond aux questions des adolescents le soir, en fait, va manquer de parole avec son fils. Il va y avoir pratiquement aucun dialogue. Et il y a une scène aussi qui m'a marqué, en fait, c'est aussi l'attente. Il attend son père et il y a une scène au moment où il ouvre le rideau et il regarde dehors pour voir si son père va arriver, son père en moto va arriver. Et c'est un livre qui est très touchant. Donc en plus donc, de cette mise en avant de ses problèmes avec son père, il y a quand même aussi des cartes postales de sa cousine qui vont donner en fait une lumière, comme aussi en fait les lettres de sa mère qui vont apporter une gaieté. Et ce livre est vraiment très touchant et vraiment un véritable coup de cœur. C'est même, je dirais même, un coup de poing.
Valentin Spitz, qui est aujourd'hui psychanalyste, un fils sans mémoire, psychanalyste et écrivain. Il en reste un, alors je ne connais pas, mais ça donne vraiment très envie, rien que le titre et la couverture. On voit plein de gens dans une gare, manifestement, ça s'appelle « Être en train ».
Oui, c'est David Medioni qui s'occupe aussi d'un magazine culturel qui s'appelle le Ernest. Et donc là, en fait, il va nous embarquer. Donc à chaque fois, c'est comme des chroniques. Donc on voyage dans plusieurs trains. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il va remarquer à chaque fois les détails des gens, en fait, leurs habitudes, genre ceux qui achètent plein de magazines, ceux qui travaillent sur leur tableau Excel, ceux qui discutent entre eux, ceux qui dorment. Et c'est vraiment un fourmillement de plein de petites histoires qui est vraiment formidable et on lit ça vraiment avec délectation.
Il raconte ce qu'il voit ou il imagine les histoires
non.
des gens ?
Il voit vraiment, il voit les gens et c'est vrai qu'après, comme dans le train, on imagine des histoires, hein, forcément. Ça, c'est un plaisir qu'on a quand on est dans le train. Hein.
Ah, moi, j'adore. Imagine les histoires des gens dans le train. Alors, on récapitule. David Medioni, Être en train, c'est chez
l'Aube. Okay. C'est vrai que j'ai oublié peut-être de signaler. Ensuite. Valentin Spitz, Un fils sans mémoire chez Stock. Et Le Mal épris de Bénédicte Saumier chez Calman Levy. Et si on a peut-être 2 secondes, je voulais parler surtout de la loi du prix unique. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est quelque chose d'important. Et c'est pour dire aux gens que vous achetiez dans une librairie indépendante ou dans une librairie au fin fond de la France ou sur Amazon ou sur la Fnac, c'est le même prix. Et je trouve que c'est vraiment très important d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne le savent pas, en fait, qui achètent sur Amazon pensant que c'est moins cher, alors que pas du tout. C'est le même prix. Et en plus, il y a beaucoup de conseils en librairie.
Ça a sauvé les librairies.
Exactement. C'était la loi de 81 de Jack Lang. Et ce qui a fait qu'il y a encore beaucoup de librairies en France.
Merci beaucoup, Olivier Gallet.
Merci beaucoup, Nicolas.
À bientôt. Retour en studio, en route pour le dernier chapitre, la littérature jeunesse, avec Victor Delon.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve donc le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Deux albums aujourd'hui carrément.
Ouais, les deux coups de cœur vraiment absolus. D'abord le premier qui s'intitule « Ceux qui décident » de Lisa Adbage. C'est un album qu'on peut lire aux enfants à peu près, on va dire, à partir de 5 ans. Mmh. Alors il y a deux groupes d'enfants dans cet album, « Ceux qui décident » donc, et ceux qui n'ont le droit de rien faire. Les dessins de cette auteure illustratrice suédoise sont très efficaces. Ceux qui décident ont les sourcils froncés, le regard noir.
Ouais, c'est les brutes.
Ouais, exactement, menaçants. Et les autres, ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils sont gentils, en fait. Et quand ils sont dans la cour de récréation, quand ils occupent une balançoire, quand ils construisent une cabane, à chaque fois, ceux qui décident cassent tout, détruisent leurs espoirs. Jusqu'au jour de la partie de foot, Nicolas. Mmh. Même scénario, ceux qui décident font des guerres pire les autres du terrain, sauf qu'ils se retrouvent tout seuls, tous les quatre. Alors à ce moment-là, ils se tournent vers ceux qui n'ont jamais le droit de rien faire, parce qu'ils ne peuvent pas jouer à 4 au foot, c'est nul. Ils leur demandent de jouer. Et pour une fois, ce sont eux qui vont pouvoir décider. Un récit très efficace sur le harcèlement, sur l'union et l'importance notamment de temps en temps de savoir dire non. C'est en plus aux éditions L'Étagère du Bas, une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui propose toujours des titres très beaux et très intelligents.
Et le deuxième, Victor ?
Autre coup de cœur avec un format très original, vertical, très étroit. Et un titre qui l'est tout autant, « Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie ». C'est joli comme titre.
Très poétique.
Exactement, la scène se passe sous les branchages d'un arbre. C'est l'été, assise sur une branche, une jeune fille cueille des fruits, pendant qu'au sol, un garçon peint un paysage sous le regard de 3 spectateurs. Et à travers 11 tableaux, avec une légère modification à chaque page, la goutte de pluie qui tombe et le léger mouvement des personnages vont avoir une incidence sur le tableau final. Suspense et équilibre jusqu'au bout. Où va tomber la goutte d'eau ? C'est vraiment sublime et vous pouvez sans problème le lire à vos enfants à partir de 2-3 ans, je dirais.
Et on rappelle donc « Ceux qui décident » de Lisen Abdage aux éditions L'Étagère du Bas et « Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie » d'Adrien Parlange aux éditions Albin Michel Jeunesse. Merci Victor.
Merci à vous Nicolas.
Et vous Delphine de Vigan, je vous demande pas le premier roman que vous avez lu, si c'est Comtesse de Ségur et tout, on en a beaucoup parlé déjà, avec d'autres invités, mais quel est le premier roman qui vous a marqué plutôt ?
Je crois vraiment le premier roman qui m'a vraiment marqué, c'est le dernier des Mohicans.
James Fenimore Cooper,
absolument. Merci. Et voilà, parce que j'ai lu ça, je devais avoir 10-11 ans. Et je revois, c'est marrant parce que c'est vraiment, ça fait partie de ces livres qui convoquent aussi la scène, le moment dans lequel on les a lus. Mmh. Et je me revois petite fille dans le train. À l'époque, je circulais tous les 15 jours entre la Normandie et Paris, étant fille de parents divorcés. Quelque chose de très banal. Mais donc, on prenait le train, ma sœur et moi, pour aller en Normandie voir notre père. Et je me revois terminant ce roman, m'effondrer en larmes parce que la fin est triste, voilà, et en même temps avec une espèce de plaisir, enfin en tout cas cette intuition forte que j'étais en train de pleurer pour un personnage qui n'existait pas. Et je me disais, mais c'est comme si un monde s'ouvrait. Pouvoir ressentir une telle émotion pour un personnage de papier, en fait, il me semble avoir compris, alors peut-être que je le reconstruis a posteriori, mais en tout cas, avoir compris à ce moment-là que ça, c'était quelque chose de très important.
Vous connaissez l'anecdote de Dumas, c'est Dumas fils qui rentre dans le bureau de son père. Son père est de dos en train d'écrire, il se retourne et Dumas père est en train de pleurer. Alors Dumas fils lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a papa ? Et il lui dit, j'ai été obligé de tuer Porthos.
Ah oui, j'adore.
Est-ce que c'est dur pour vous de tuer un personnage aussi ?
Oui, c'est jamais très agréable. D'ailleurs, parfois, on a l'impression qu'on malmène ces personnages, même sans aller jusqu'à les tuer. Mais ça fait aussi partie du plaisir un peu démiurge du romancier, d'avoir droit de vie ou mort sur ces personnages, de décider s'ils sont blonds ou bruns, s'ils vont à droite ou à gauche.
Merci beaucoup Delphine de Vigan de passer nous voir. Les enfants sont rois, c'est votre dernier roman chez Gallimard. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.